Now.
Donc là, la troisième période de 2000 ans s'appelle Yemot HaMashiach. Ça veut dire les jours où le Mashiach peut se dévoiler comme Melech HaMashiach. C'est-à-dire un fait de société et qui va prendre le relais du quatrième empire. Vous voyez de ça ? Si le Melech HaMashiach ne s'est pas révélé. Bon, là, c'est le dossier que nous avons avec le christianisme. C'est-à-dire, c'est les jours où le Mashiach peut venir. Effectivement, qui se souvient ? Alors, ça, c'est tardif. Dès le début de ces 2000 ans. Non, d'ailleurs, là, je veux préciser, c'est le Hari lui-même. Hein, un de ses élèves qui l'a dit de son maître. Autre chose. Non. Bon, vous savez pas, il s'appelle Hillel Azaken. Hillel lui-même. Mais le texte qui le cite dit « La génération n'a pas mérité. » Elle a tellement pas mérité qu'au lieu du Magen David, comme nous en avons parlé, on a eu le contraire. Bien.
Ah. C'était en même temps, les deux époques ?
C'était à cette époque-là. Bien. Alors la deuxième idée, c'est que, dans tous les cas, il suffit de bien comprendre que ce temps-là, de la troisième partie des trois fois 2000 ans, c'est le temps de la fin des Yemot HaOlam, les jours du monde, c'est-à-dire 6000 ans, okay, pour comprendre que, par définition même, le temps du Melech HaMashiach, c'est le temps de la fin, et donc il suffit que ce soit le temps de la fin des temps. Okay. Parce que, et là on aborde la deuxième idée, quelle est la fonction de Malchut HaMashiach ? C'est de permettre la transition entre Olam Hazeh et Olam Haba, entre ce monde-ci et le monde à venir. Le moment important de cette transition s'appelant Triat HaMetim et que l'on traduit la résurrection des morts, mais ça fera peut-être l'objet de d'autres séminaires, mais enfin je pense pas, parce que j'espère qu'entre temps il sera venu et qu'on n'en aura pas besoin. Simplement je vais faire un autre schéma rapide. Nous avons donc Olam Hazeh qui commence à Adam HaRishon. Et vers la fin de ce temps de Olam Hazeh, nous avons Yemot HaMashiach. Yemot HaMashiach commence avec Mashiach Ben Yosef, le rassemblement des exilés, la constitution de la société dont on parle. C'est clair. Et puis la fin, c'est Mashiach Ben David, et le temps de la résurrection des morts. Et après, c'est Olam Haba. Et Olam Haba, qu'est-ce que c'est ? On ne sait pas. Mais on le pressent. Ça veut dire que c'est un Olam Hazeh tel qu'il aurait dû être pour justifier le fait d'avoir été créé. Je ne sais pas si vous comprenez cette ellipse, mais enfin, ça les enfants comprennent. Et les prophètes. Et c'est pourquoi peut-être la Torah insiste toujours en disant « Parle aux enfants d'Israël ». Je crois qu'il faut prendre ça à la lettre. Comme d'habitude. C'est clair.
Bon. Ça veut dire que le
Olam Hazeh, il n'est que pour les juifs. C'est-à-dire, si je ne sais pas à quoi tu penses vraiment, mais je pense en même temps à un texte célèbre de la Gemara. Les tzadikim sont appelés vivants même dans leur mort, et les rechaïm sont appelés morts même dans leur vie. Il ne s'agit pas de la vie biologique, bien évidemment. Bon, alors là je crois qu'on peut enchaîner. Alors nous allons commencer la lecture au début du paragraphe. Verot teda. Alors, Verot teda, et aussi tu sauras, qui malchut Israël, que la royauté d'Israël, et alors là, au bénéfice des explications précédentes, il faudra traduire la société d'Israël que l'on attend de type messianique, le fait que pendant 2000 ans, il n'y avait pas de société d'Israël, il y avait des communautés. Et la société d'Israël et des communautés de la dispersion. Il y en avait aussi en Eretz Israël même, mais c'était un exil sur la terre. Donc la société d'Israël, à l'indice Malchut du Mashiach, Hu Malchut Nivdelet mi Malchut Arakum. Vous avez une autre expression ici à. Orde Gilulim, mais c'est équivalent à Orde Kochabim. On sent la rancœur d'un rabbin de Prague parlant en son temps, Gilulim. Et alors, elle est séparée. Séparée ici, ça ne veut pas dire seulement séparée géographiquement ou séparée qu'il y a une différence. Ça veut dire une différence radicale dans l'essence même, elle est de notre ordre, Nivdal. Ce terme de Nivdal chez le Maharal a toujours une portée très absolue. Un peu, si vous voulez, dans le sens que le terme de abstrait peut signifier par rapport, non pas à concret, mais à matériel. Abstrait de Nivdal, séparé. Ça veut dire de notre ordre. Et quel est cet autre ordre? On a quand même mis en évidence un des critères. C'est que toute société s'est habituée, et c'est ça l'échec des empires, des malchouyot, à substituer la légalité à la moralité comme principe de la constitution. Même si cette légalité est une légalité théologique, où, là je me branche sur une des questions à la fin du cours qu'on n'a pas eu le temps d'élucider, est-ce que le questionneur, qui était d'ailleurs une questionneur, est là? Non, pas grave. Même si cette légalité est puritaine, il n'en reste pas moins qu'elle a les défauts de la légalité, de ce que serait une Midat Haddin séparée de la Midat Rahamim ou de la Midat Chesed. Pour ceux qui entendent déjà ce vocabulaire, je ne vais pas trop revenir sur ces parenthèses. La Midat Haddin seule, ça a été l'héritage d'Ésaü. La Midat Haddin seule, et c'est Ish Damim, à travers la Midat Haddin, on peut, en tant même que juge, devenir le pire des assassins. Il suffit de citer le code. Okay. C'est ce qu'on appelle un peu dans nos cercles d'études le thème du dur alex. Dur alex, c'est de l'ex, en latin. Oui. Et vous savez que le dur alex, c'est pas forcément caché. Hein. Il y a une controverse. Bon. C'est cela la différence essentielle du point de vue de la définition de ce qui fait une société, c'est-à-dire un ensemble d'individus qui effectuent leur vie au niveau du fait social, et pas seulement dans cette dichotomie, la vie privée, qui est pour nous les juifs, disons la vie juive, et puis la vie extérieure, bon, on donne ça au goyim, c'est sale. Okay. Mais au niveau du fait de société, eh bien, la grande différence entre ce qu'on appellera ici Malchut Israël et Malchut Arakoum, c'est que le critère, c'est la moralité et non pas la légalité. Mais je m'aperçois qu'il faut quand même élucider ces termes, parce que je me référais tout simplement à des séminaires déjà passés, à Paris d'ailleurs, mais pas forcément tout le monde a suivi cela. C'est-à-dire, au fond, vous rappelez d'un des séminaires que nous avons eu à propos de Hanouka, de la différence entre la perspective sadducéenne et la perspective pharisienne. Okay. Et ériger la légalité comme recours suprême, eh bien, c'est finalement un athéisme radical, c'est finalement cette forme de religiosité paradoxale propre aux sadducéens. Ça veut dire, la loi est tellement la loi dans sa lettre, dans sa légalité, dans son légalisme, que ça cache complètement Dieu. Est-ce que c'est clair ce que... Okay. Il est bien évident que la légalité est une valeur en soi. Okay. Prie pour la paix de l'État, parce que s'il n'y avait la crainte de l'État qui passe par la police, par exemple, chacun avalerait son prochain vivant, tellement il l'aime. Mais c'est sûr, la légalité est une valeur indispensable à condition qu'elle soit une des valeurs de la moralité. Mais si elle se substitue à la moralité comme critère de la constitution, alors c'est là qu'on tombe dans ce que le texte ici nomme Malchut Akum, la société des idolâtres. Je crois qu'il y a là un élément extrêmement important à comprendre. À partir du moment où on substitue une légalité à la recherche du bien, quelle que soit cette légalité, fût-ce une légalité théologique, fût-ce une légalité religieuse, une légalité puritaine, une légalité, comment dire, cultuelle, rituelle, tout ce que vous voudrez, dès que, à quelque niveau que ce soit, l'aspect de légalité prend le pas sur la moralité, c'est la catastrophe, c'est le malchut des idolâtres, c'est des idolâtres de la loi, à la limite. Ce phénomène existe dans la société juive. C'est ce que je vous ai appelé souvent la tendance sadducéenne. Or, vous savez d'où vient cette tendance sadducéenne? Elle vient d'une imprégnation du milieu culturel juif de la culture grecque. Le milieu sadducéen est d'essence helléniste. C'est le mitiavnim. Hein? Alors que ça vient d'Athènes, ou que ça vient de Rome, ou que ça vient de peu importe d'où, c'est le même problème. C'est un envahissement du principe de la mentalité philosophique dans la tradition. Et alors ça dure une génération, et après ça éclate, et après ça se dévoile, et après c'est clair. Après on se sépare, c'est de la séparation. Bon, qu'est-ce que tu veux dire?
Ça ne va pas beaucoup plus loin que la science grecque, parce que ce n'est pas une tentation permanente de l'esprit humain, et ce n'est pas déjà pour ça que Sodome avait été condamné par cette substitution de la légalité.
Je vais vous dire la différence, Sodome c'est un cas particulier. Parce que derrière cette légalité de Sodome, il y avait des rechaïm, il y avait des méchants. Ils étaient méchants. Je ne peux pas dire que les Grecs d'Athènes ou même de Sparte étaient d'intention méchante. Vous comprenez ce que je veux dire? Mais ils étaient des légalistes. Athènes à la manière démocratique, Sparte à la manière totalitariste, si vous voulez. Mais comme nous disons en hébreu, zon erecha ve zon evela, la peste et le choléra. Mais derrière, il n'y avait pas des méchants. Tandis que les gens de Sodome étaient méchants. Et ils se servaient de la légalité au service de leur méchanceté. Tandis que ce dont nous parlons, c'est autre chose peut-être beaucoup plus subtil, ou peut-être beaucoup plus subtilement grave. C'est la bonne volonté tombant dans le piège de la légalité. Du légalisme. Est-ce que c'est clair?
Oui. Ça n'empêche pas que le début du Tikkun commence par là pour tout un chacun. Et pour les individus et pour les...
Commence par là. Vous dites commence par quoi, en disant là?
Par ce refus de cette substitution.
Absolument, absolument. Mais il nous faut une règle. Donc, Torah Shebalpé, il nous faut un Shulchan Aruch. Bien sûr. Je vous dirai une blague que les hommes du Shulchan Aruch, oui, une minute. Les juifs du Shulchan Aruch aiment bien citer avec un petit sourire. Il y a des juifs qui ont la crainte de Dieu, et il y a des juifs qui ont la crainte du Shulchan Aruch. Bon, mais irat Hashem ou irat Shulchan Aruch. Chaque fois qu'un chassid, un mitnaged se rend compte, ce problème apparaît 13 fois à l'envers. Okay? En réalité, on cite les Polonais et les Allemands. Vous voyez à peu près de quoi je parle. Pardonnez, puisqu'on a parlé de Sodome, et Sodome et Gomorre, okay? il y a un Rachet Ebot. Je vous le mets au tableau, comme ça vaut la peine. Regardez qu'est-ce qu'on risque avec Sodome. Sodome, alors je mets un même ouvert. C'est Seder. Daikanut Mishmaat. Vous voyez, c'est Sodome. Ça veut dire l'ordre, la méticulosité et la discipline. Avec ça, on fait Sodome. Si un rachat derrière. Oui. Est-ce que c'est clair? Mishmaat, la discipline. Okay. Il faut bien faire attention à cela. Tant l'ordre que la méticulosité, que la discipline, ce sont des valeurs authentiques. Okay. Mais lorsqu'elles deviennent légalistes, c'est ça Sodome. Ça va jusque-là. Seulement, avec ce cas particulier de Sodome, les gens de Sodome, le texte est clair, Ve'anshe Sodome Ra'im Vahataim, ils étaient méchants et pas seulement pécheurs. C'était des hommes mauvais, mais qui se servaient de la légalité pour leur mauvaise volonté, leur volonté mauvaise. Si les Sodome, ce serait l'indice de l'échec de Rome, mais avec des gens méchants. La différence, si vous voulez, par exemple, entre, malgré tout, les inspirateurs du droit romain et les législateurs du Troisième Reich et les législateurs nazis. C'est la même civilisation, finalement. Mais au niveau des nazis, l'intention est méchante. Alors que les Romains, ils sont tout simplement Romains à l'époque. Des choses comme ça. Bon. Et comme disait Rabbi Astérix, et en plus, ils sont fous, ces Romains, ils se prennent pour Israël. Alors, oui, qu'est-ce que vous voulez dire?
Vous reclarifiez cette notion par rapport
aux nazis et aux Oulala, là, vous allez me prendre un quart d'heure. Vous allez vous prendre un quart d'heure. Justement, tant que, regardez l'ordre des versets, en particulier dans Shmout, tant que les Hébreux n'avaient dit que Kol Asher Diber Hashem Naase, Dieu n'a pas contracté l'alliance de la Torah. Quand ils ont dit Naase Venishmar, l'alliance de la Torah a été contractée. Est-ce que ça peut suffire comme réponse? Oui? Non. Le Nishmar doit être à l'abri du Naase. Mais s'il y a le Naase seul, c'est la catastrophe. Alors je veux dire quel est le pshat de ce verset. Et ensuite, je citerai donc le drash auquel vous vous référez, mais faites attention que c'est un drash dans la Gemara de Shabbat, page 80 et quelques. Comme ça, si vous voulez, on peut le chercher. Voilà, le peuple a dit, comme Moïse a dit, voilà, que Dieu, la proposition que Dieu vous fait, vous rappelez le rendez-vous de la mutation du Sinaï, okay? C'était pour dire quoi? Ve'atem, tijuli, mamlechet, kohanim, vegoy, kadosh. Et quant à vous, vous serez pour moi une royauté de prêtres et une nation sainte, de sainteté. Bon. Alors le peuple dit, Kol Asher Diber Hashem Naas. Tout ce que dit à Moïse, tout ce que Dieu a dit, nous ferons. Ça veut dire acceptation. Bon. Mais tant qu'ils avaient dit que Naasé, nous ferons, l'alliance n'est pas contractée. Il faudra attendre, vous l'avez dans un épisode plus loin, que les Naharim, les jeunes gens d'Israël, dit le texte. Vous vous rappelez de ça? Ça, c'est l'alliance avec les mouvements de Genève. Et d'ailleurs, c'était prévu, enfin, c'est un petit drache, la promesse à Jacob. Vérav, Yahavot, Saïr. Vous rappelez la promesse à Jacob? Ça veut dire, tu seras aumônier de la Genève. Et alors, là. Tant que le peuple n'a pas dit, assez, Vénishmar, nous ferons et nous écouterons et nous comprendrons. L'alliance n'est pas contract scellé. Quel est le pshat? Vous le retrouvez dans ce forum. Le pshat, c'est tout ce que Dieu a déjà dit, nous allons le faire. Et s'il y a encore à écouter, on est prêt à écouter. C'est ça la vraie alliance dans le pshat. Kol Asher Diber Hashem Naase. Tout ce que Dieu nous a déjà dit, nous allons le faire, parce qu'on a déjà écouté. Venishmar, et nous sommes prêts à écouter encore s'il y a encore à faire. Peur que vous avez la fin de cette page de la Gemara de Shabbat. Je crois que c'est la page 86A, dans les environs, mais c'est à la fin de la page. Alors, il y a un sadducéen qui dit à un pharisien, à la fin, Am Paziz, c'est-à-dire vous êtes un peuple, Paziz, contre lui, impétueux, Paziz, ma, impétueux, quel, plus encore, précisément, fougueux, impétueux, c'est-à-dire vous ne savez pas à quoi vous vous engagez, quel. Vous êtes prêts à vous engager à tout, comme ça. Il suffit que Dieu parle et vous dites d'accord. Okay. L'attitude de celle du Seigneur. Okay. Imprudent. Okay. Et alors le pharisien qui répond, oui, mais nous savons à qui nous faisons confiance. Okay. Vous voyez que le celle du Seigneur est fondamentalement athée, il ne sait pas de qui il parle. Il a peur de la loi. Bien. Alors ça c'est le pshat. Ça veut dire l'ordre, c'est bien sûr Nishmar Venarasi. Il faut d'abord écouter et comprendre ce qu'on nous demande pour le faire avec des chances de réussir ce qu'on a voulu nous demander. Parce que si je ne sais pas ce qu'on m'a demandé, comment je vais le réussir? Est-ce que c'est clair? Ça, c'est le pshat. Alors, Gemara s'empare de ce verset en disant, mais l'ordre est anormal. Naase Venishmar. Et ça veut dire qu'il y a là un engagement de foi de la part d'Israël qui n'est connu que chez les anges. Vous vous rappelez de cela? Bon, ça, c'est le drash. Alors, pour atténuer un peu la difficulté, il est bien évident que pour celui qui reçoit la Torah, l'ordre normal doit être Naase Venishmar, je ferai, et à l'abri du je fais, j'ai le temps de comprendre. Mais pour celui qui donne la Torah, là l'ordre est différent, et il est normal. J'entends ce que Dieu veut, et après je le fais. Est-ce que c'est clair? L'ordre pour le Rav, c'est Nishmar Venas. Et l'ordre pour l'élève à l'abri du Rav, c'est Naase Venishvar. Et il faut se mettre à l'abri du comportement pour avoir le temps d'intégrer la compréhension. Et si on n'est pas relié à la Torah Sheba, on est perdu. Parce que, on va vous donner un Shulchan Aruch, Ken, et comment vous allez manier ça, hein? C'est une espèce de, je ne sais plus qui avait donné, une image qui nous vient de Claude Bernard, qui avait donné cette image. Imaginez, vous allez donner une ordonnance à un garçon de laboratoire ignorant. Il fonctionne. Allez, prends tes ingrédients et regarde ce qui est écrit dans l'ordonnance. Il va vous faire des explosifs. Et tout juif qui n'a pas de maître est dans la position d'un garçon de laboratoire ignorant à qui on donne une formule dangereuse, explosif spirituel. Est-ce que c'est clair ce que je dis,
okay.
Pardon? Un kitsou sur un autre. Bon, mais bon. Il y a. Voilà. Alors, ça, il faut bien faire attention à cela, mais je voulais ajouter autre chose. C'est. C'est que, bien sûr, il y a une option de foi. Mais c'est une option de foi, donc ça m'a échappé, mais je le dis autrement. Une option de foi qui est faite en Dieu qui a donné la Torah. Et pas du tout dans les dictionnaires qui, le cas échéant, me permettrait de traduire un texte que même le auteur du dictionnaire ne comprend pas parce que ça ne l'intéresse pas. Okay. Est-ce que c'est clair? Oui, faites bien attention à ça. Top. Est-ce que j'ai suffisamment répondu? Bon, c'est dommage, j'avais un midrash que je voulais vous citer, Néalam. Et c'est bon, il doit faire partie du midrash à Néalam. Je ne sais pas ce que c'est le midrash à Néalam. Le midrash caché. Okay. Alors, on revient au problème, s'il n'y a pas d'autres questions. Je ne me rappelle plus. Il y avait quelque chose. Ah oui. Je voulais vous citer ça. C'est un mystère pour les bibliographes. Les anciennes éditions du Shulchan Aruch, et surtout les éditions manuscrites qui nous viennent du temps de Rabbi Yosef Haro, sur la première page, il y avait écrit trois lettres en hébreu, Aleph Tavshin. C'est un mystère pour les bibliographes. Et nous, on a appris ça au Talmud Torah. Avant de commencer le Shulchan Aruch, on lit trois lettres. Et c'est Aleph Tavshin. Ça veut dire Al Tehi Shote. Ne sois pas fou. Ça veut dire tu vas lire le code. Alors, amanie avec précaution. Un peu d'humour. Hein. Parce que sinon, tu vas devenir fou. C'est clair. Alors, faites bien attention à cette attitude qui est indispensable, si vous voulez, comme abri, mais qui est l'abri de... Pour vous donner une autre indication, une image qui me revient souvent, si quelqu'un découvre la Torah, que la Torah ça existe, il y a un mode d'emploi du métier d'homme. Ça veut dire, oui, mais je ne vais pas fonctionner avant de comprendre. Alors à quoi ça ressemble? À quelqu'un qui découvre que pour manger, il faut faire fonctionner son système digestif, et qui va refuser de manger avant de savoir comment le système digestif fonctionne. Ça va être là. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, entre-temps... Et voilà le problème. Alors ça, je crois que la règle est claire. C'est à l'abri de la pratique que l'étude a une base. Mais l'ordre, c'est évidemment... il faut savoir ce qu'il faut faire pour avoir une chance de le faire de façon efficace. Mais qui c'est? C'est le maître, c'est pas l'élève. Vous voyez, ne vous trompez pas. Par exemple, je dis souvent, non, je ne vais pas ouvrir de parenthèse, vous avez suffisamment compris. Et le problème, c'est de nouveau le même, l'égalité ou moralité. Peut-être qu'il faudra trouver un terme plus approprié pour notre sujet à la place de moralité. Mais le terme que j'ai le plus en horreur depuis que j'ai étudié Spinoza, vous savez que c'est interdit d'étudier Spinoza. Bon. Mais c'est permis d'étudier ces choses-là quand c'est ni jour ni nuit. C'est le crépuscule du matin, le crépuscule du soir. Et alors, tu te rappelles, c'est le terme de éthique. C'est un terme en hébreu, je l'ai en horreur. Parce que ça veut dire justement la légalité de la moralité, l'éthique. Si vous comprenez bien en grec, qu'est-ce qu'il y a d'ailleurs? Est-ce que c'est clair? Alors bon, les gens se gargarisent. Éthique. Dis moral, sois un peu juif. Bon, allez, on revient au... Alors, donc, Véot Tedar, et aussi tu sauras qui Malchut Israël, que la royauté d'Israël, ou Malchut Nivdelet, C'est-à-dire la société d'Israël, du point de vue dont on parle, est une société à part, min malchut à akum, des sociétés idolâtres. Ulchach, et c'est pourquoi Hamashiach mitrale ou mitgadel betoch malchut haouma. Et c'est pourquoi ce qu'il faut découvrir, c'est que le Mashiach est en gestation, pour rappeler le thème de la vie embryonnaire, qui est la vie embryonnaire du peuple juif au sein des nations, précisément dans la société haouma de la nation correspondante en chaque temps à l'empire du temps. Et nous sommes dans à la fin du quatrième empire, qui est l'empire de Rome, on en a parlé en détail hier. C'est clair ? Bon. Kemo sheyotze haperi mitoch haklipa. De même que le fruit sort du dedans de l'écorce. Vechach malchut Israël ou nildal mi malchut haoumot. Alors il y a deux idées en même temps. Le royaume messianique est différent, séparé du royaume goy, comme le fruit est différent de son écorce, mais il sort du dedans de lui comme le fruit sort de son écorce. Est-ce que c'est clair? Et alors, je ne sais pas si on ne pourrait pas utiliser à un certain niveau littéraire, disons, l'expression les juifs du pape. C'est-à-dire pendant 2000 ans, nous avons été d'une certaine manière les juifs du pape. Okay? Mais il faut sortir de Rome pour pouvoir être juif. Tant qu'on est dans Rome, eh bien, on est dans Rome. Oui, et plus que les autres. Le quatrième empire récapitule les valeurs des trois autres, plus la sienne. Et c'est pourquoi il est le plus rival d'Israël. La rivalité entre la Perse et Israël, entre la Grèce et Israël, c'est sur telle ou telle conduite de valeur. Vous vous rappelez du séminaire de Hanouka, okay? Mais la récapitulation dans le quatrième empire, c'est-à-dire Rome, c'est la rivalité en propre terme. Et vous vous rappelez ce que disait Rabbi Astérix, Rome se nomme Israël. Il faut être gaulois pour comprendre cet humour-là. Oui, Rome se nomme Israël. Et elle se nomme, bien sûr. Et c'est Esaü, le prétendant qu'il est le véritable Israël face à Jacob. Bon. Ou malchut haoumot nershav kemo klipa el malchut Israël. Et donc, disons, pour décrypter un peu déjà, les sociétés de droit romain seront considérées comme étant une écorce par rapport à ce qui est cherché dans la légalité de la Torah. Ou kemo haperi sheu gadel betorah klipa. De même, comme le fruit qui grandit, est en gestation, est engendré, en engendrement, dans les corps. Donc il était nécessaire de passer par ce stade d'un fruit dans les corps. Mais il faut sortir de les corps. Kacher aperi al shlemuto, lorsque le fruit est arrivé à maturité, je ne dirais pas parfait, ce n'est pas un mot hébreu, disons en plénitude, qu'est-ce que ça veut dire un fruit en plénitude? Bon, je dirais un fruit qui peut même, à travers les corps, donner son parfum. Je dirais ça. Okay. Et vous savez que dans le Midrash, on utilise beaucoup, c'est un enseignement de Rabbi Akiba, okay, que ce diagnostic de l'authenticité à travers l'odorat, à propos du Messie, okay, que le Messie est capable, en respirant un objet ou une personne, de savoir si c'est cachère ou pas. Ah, fait bien attention, c'est pas comme ça qu'on sait que c'est cachère ou pas. Hein, ça, c'est, bien attention. Et as a klipa nofelet, alors l'écorce tombe, venil delet mimenu, et est séparé du fruit. Mikol makom, de toute façon, trilat gidou la péri, le commencement de la maturation du fruit, houtor a klipa, est dans la klipa. C'est clair. Bon, ça c'est un grand hommage au judaïsme italien. Mais il faut se rendre compte qu'aujourd'hui le judaïsme italien n'existe plus. Il est sorti de Rome, grâce à Dieu. C'est clair. Bon, il y a des juifs en Italie, mais vous savez que c'est plus la même chose. Car Israël, Malchut Shelahem, ainsi Israël, leur royaume, hu mit ale hu mit gadel mitor Malchut Haoumot, et grandit et s'agrandit du dedans de la royauté, à la manière des goyim, je dirais. C'est-à-dire, nous sommes à la recherche d'une constitution, d'une société qui est en effort de se dégager de ce légalisme que les sociétés de droit romain nous ont transmis comme héritage à se débarrasser, mais sans cet héritage, nous n'aurions pas pu savoir comment on fait l'organisation d'une société. Et peut-être des analyses beaucoup plus précises, beaucoup plus ponctuelles, expliquera pourquoi il fallait passer par le biais britannique. Parce que, après tout, c'est de Rome devenue l'Angleterre que nous avons reçu avec Israël. Et j'ai appris, je ne sais pas qui m'a dit, qu'au dernier concours international des cuisiniers, c'était des Israéliens qui avaient remporté le premier prix. C'est un miracle, parce que ce sont les Britanniques qui nous avaient laissé leur recette culinaire officielle. Alors vous voyez que ça va vite, quand même. Et alors, la... Pardon ? Oui, c'est normal. Et alors, il doit y avoir, une raison. Je vous citerai simplement ce que j'ai entendu du Rav Kook à ce sujet. Pourquoi ce type de société humaine du 4e Empire, donc les sociétés de droit romain, il fallait que le visage qui nous soit le plus proche des temps messianiques soit le visage britannique. Après tout, en tant qu'Algérien d'origine, j'aurais peut-être préféré que ce soit le visage français. Mais il y a une raison, selon le Rav Kook. Et il appelle cela « Ashgacha betoch Ashgacha », « Providence dans la Providence ». Peut-être j'ouvrirai une parenthèse. Ça veut dire recevoir directement la souveraineté... Marie, téléphone ou... Oh, Ahaka, d'accord. Recevoir directement la souveraineté politique sur la terre d'Israël que nous avons perdue avec Rome il y a 2000 ans, okay, de l'Empire turc, ça aurait été très difficile parce que les Turcs étaient des musulmans. Et je ne dis pas les Arabes, on l'aurait reçu des Turcs, pas des Arabes, c'est un autre problème. Okay. Et là, bon, c'est un tout autre problème, on n'a pas le temps aujourd'hui, ça vous intéresse, notez cette question pour dimanche. Et alors, il fallait un intermède chrétien. Parce que quand Ishmaël réclame cette terre, c'est plus sérieux que quand Esaü la réclame. Quand le musulman réclame cette terre, le monde entier prête l'oreille, alors que quand les chrétiens la réclament, on sourit. Bon, c'est une figure spirituelle, la terre sainte, chez les chrétiens. Okay. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est-à-dire, c'est une hyperbole. C'est de la religion. Tandis qu'avec l'islam, hein, ça devient plus sérieux. Fils d'Abraham, etc. Il fallait donc un intermède où le relais passe par des chrétiens. Alors, Providence, à l'intérieur de la Providence, dans la Providence, c'était pas des catholiques, mais des protestants. Parce qu'avec des catholiques, ça aurait été très dur à cause des lieux saints. Avec des protestants, c'est plus facile. Est-ce que c'est clair ce que je dis, okay? Bon, ça peut aller jusque-là. Pourquoi les Britanniques et pas les Suédois? Bon, ça, c'est des raisons qui ressort de l'histoire de l'Occident. Et puis finalement, on se rapproche de Pourim. Vous savez que dès qu'on est dans le mois de Hadar, c'est Pourim. Okay.
Il y a aussi la tradition que vous avez perdu au mois de...
C'est ce que je voulais citer, enfin une partie d'entre elles. C'est-à-dire que ça se dit en anglais comme ça, l'homme de l'Alliance, British. Okay. Mais en fait, c'est une...
Qu'est-ce qu'il y a cité comme référence
pour... Non, c'est une histoire de fou, mais... Disons que c'est une prétention des Britanniques et qu'ils sont les hommes de l'Alliance. Okay. British, oui. Et vous savez, on est comme ça en rivalité avec des gens qui se prétendent de l'Alliance. Par exemple, vous savez comment on dit en hébreu l'Union soviétique ? Brit Amoras. Bon. Et comment on dit les États-Unis ? Artsot Abrit. Bon. Il y a quelque chose. Mais je crois en tout cas que ce qu'il faut noter, c'est quand même que c'est les Anglais qui ont diffusé la Bible, et plus que les Français, plus que les Juifs. Bon, les Juifs, parce qu'on les a pas laissés faire. Et je crois qu'on pourrait dire heureusement, parce que si au jugement dernier on disait, et si on vous avait laissé faire, alors le bon Dieu dirait, hein, mes amis, on a eu de la chance, parce que si on vous l'avait laissé faire, heureusement qu'on nous a pas laissé. Enfin, quoi qu'il en soit, c'est comme ça que c'est. Il y a eu un relais qui est passé par des Britanniques. Donc, et je pourrais continuer un peu l'analyse. Tous ces territoires que nous avons reçus de la main des Anglais, enfin les Anglais qui avaient retiré les mains. Et vous vous rappelez de ce qui s'est passé, que le gouverneur est allé sur son croiseur à X kilomètres de la côte en attendant qu'on le rappelle. Et comme on ne l'a pas rappelé, il a baissé le pavillon et rentré dans les îles. Ivadar Bahim, une histoire avec les îles. Et alors, jusqu'en 67, ben, l'opinion publique internationale a dit bravo, c'est bien. Mais les territoires qu'on a récupérés des musulmans, là c'est beaucoup plus dur. Vous remarquez cela. Et ça se réfère à des sources, ça se réfère à des sources de la Torah, tout ce que je vous dis là. Parce qu'ils sont circoncis, parce qu'ils ne sont pas idolâtres, parce qu'Ismaël est fils d'Abraham. Vous voyez là, c'est la raison pour laquelle il nous faut un sionisme de la Torah qui n'est apparu qu'en 67. Jusqu'à 67, ça pouvait être un sionisme politique et que ça. Mais à partir de 67, ça s'appelle Gush Emunim. Vous avez remarqué que c'est là que ça s'est apparu. Bon, alors je referme la parenthèse. Et c'est que le Malchut Israël apparaît du dedans de Malchut Haomot, Ken, rapidement. De qui? Oui. Et anti-juif. N'oubliez pas de l'ajouter. Oui. Je crains, j'ai pas lu ces articles, mais si vous voulez me les donner à lire d'ici dimanche, je crains que ce soit un petit peu des analyses littéraires, tout ça, même si c'est religieux, mais... Oui. Oui. Le Sinaï, il veut dire la révélation, alors. Oui. Bon, si vous voulez, on pourrait peut-être ça, si vous m'excusez, qui est déjà un peu chaud, ne pas ouvrir un peu pour aérer. Bon, alors attendez, donc, notez toutes ces questions, vous les récapitulez à dimanche, et on avance un peu. Ce que je voulais simplement signaler, c'est qu'effectivement, que tout ce mouvement de la tentative d'une société messianique surgisse du dedans des juifs de la civilisation occidentale, à la limite Rome, avec son appendice Ishmaël, bien sûr. Mais tout ça nous renvoie à la typologie du Midrash, que Ishmaël est une dimension intérieure de l'exil d'Edom, bien que Ishmaël soit l'oncle et Esaü le neveu. Mais tout cela, nous étudions d'autre part, eh bien, est indiqué ici par le Maharal, mais il faudra se dégager de cette gangue, si j'ose dire. Et où est-elle? Écorce, opacité. Encore une fois, dans la substitution du critère de la légalité à celui de la moralité. Et là, je reviens, excusez, peut-être nous pourrons essayer ensemble de trouver un terme plus affiné encore que moralité. J'espère avoir suffisamment désigné ce que je voudrais dire, c'est-à-dire que ce soit la valeur qui soit le critère, et non pas sa législation. De nouveau, rappelez-vous, c'est la dimension de la tradition pharisienne, la Torah Shebe'al Peh d'une Torah Shebirta. Est-ce que c'est clair? Et ça passe par Emunat Chachamim. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un derrière. Derrière le livre, il n'y a personne. Derrière celui qui lit le livre, il y a quelqu'un. Pish, mi pish, ad mon cher Benou, mi pierre gvoura. C'est clair. Bon, alors je reviens donc au texte. Veinu, chez mikoach metziut malchut haumot, ou mi madregatam, mit ale el madrega yoter rayon. C'est très important. Okay? C'est grâce à la force, par le biais de l'existence des royautés des nations, et le niveau où elle se trouve, que la royauté messianique s'élèvera à un niveau plus grand. Ça veut dire qu'on ne partira comme point de départ que du niveau où était arrivée la civilisation qui est en train de disparaître. Est-ce que c'est clair? Okay. Bon, ça, nous sommes au temps de Machia Ben Yosef. Okay. Et c'est bien ce qui se passe dans la réalité concrète, mais... le point important ici, c'est qu'il faut se débarrasser de cette écorce. Alors, Kacher Malchut Israël Bishlemut.
Et lorsque la royauté d'Israël est dans sa plénitude, Az Yisulak Malchut Haumot. Alors disparaît, rejeté complètement le type de société des nations, la royauté des nations. Kemo Shemesulak Aklipa. Comme l'écorce est rejetée lorsque le fruit est à maturité, Venofel, et elle tombe. Kacher Apei Hashlemuto, lorsque le fruit est à maturité, Venavarze Atzmo. Et cette chose que l'on vient d'étudier, c'est la même chose que le premier commentaire qui a été donné, Kacher Tavin, lorsque tu le comprends. C'est-à-dire le commentaire que nous avons eu au début du chapitre, hier. Ufi She'olam Hazeh, Tivei Gashmi. Et par le fait que ce monde-ci est naturel matériel, sa nature être est la nature de la matérialité, le déterminisme des lois de la nature impersonnelle et matérielle. Mais que le niveau de l'identité messianique est séparé du monde de ce monde-ci matériel, naturel. Et on sait que c'est que le matériel s'oppose au non-matériel. Ce qui veut dire qu'il y a une lutte. Okay? Prenons ça, si vous voulez, à niveau biologique. On sait très bien qu'il y a des pulsions qui viennent de notre aspect matériel d'être, et d'autres qui viennent de notre aspect spirituel, mais qu'elles sont antagonistes. Là où le corps veut me mener, mon âme ne veut pas aller. Et là où mon âme veut me mener, le corps ne veut pas aller. Et donc, il y a une lutte. Un peu la lutte entre Jacob et Ésaü dans le sein de leur mère commune. Vedabarze be'arnou le marla. De cela, nous avions parlé plus haut. Ve'erachnou bazé. Et nous avons expliqué longuement, dit le Maharal, er, atti et agashmi. Comment ? Ce qui est naturel, matériel, mitnaged, la davar abilti, tirei gashmi, s'oppose, et opposé, je veux dire, rival, concurrent, s'oppose. C'est que c'est ou l'un ou l'autre, tant que ce conflit n'est pas résolu. Il ne peut pas y avoir de compromis, il ne peut pas y avoir de pshara, okay? C'est ou l'un ou l'autre. Au point de départ du conflit, velchach amar shamashiach yoshev ben aniim. Et c'est pourquoi le texte du Talmud disait que le Mashiach se trouve à la porte de Rome, en vue d'en sortir. Vous vous rappelez pas, en vue d'y rentrer. Vous vous rappelez du diouk de hier. Parce que la porte, on peut rentrer ou sortir, mais ici, c'est du côté de la sortie. Okay? Mais au milieu des anim, au milieu des pauvres, des humbles. Et vous vous rappelez de ce problème. Quel est ce scandale que dans une civilisation de droit romain, il y a des pauvres, hein? Alors si dans une civilisation de droit romain, il y a des pauvres, ça veut dire qu'elle va vers sa fin. Ça veut dire qu'elle est sur le chemin de l'échec, ça veut dire qu'elle est condamnée, ça veut dire que son système ne peut pas résoudre le problème de l'homme. Vous vous rappelez de cela? Bon, et bien le Mashiach est avec eux. Le Mashiach est avec ses pauvres, ses humbles, si vous voulez dire, mais essayez d'entendre un son hébreu et pas chrétien. C'est pas l'humilité, je généralise pas. Il y a effectivement des humbles chrétiens, dans la mentalité chrétienne, qui sont d'authentiques humbles. Mais ce n'est pas cette humilité puritaine de celui qui, d'autre part, a un compte en banque. Il ne s'agit pas de ça. Et qui est la Mashiach chelek mina olam hazeh klal? Car le Mashiach n'a pas de part à cette manière d'être qui consiste à être naturel. Tout ça, c'est olam hazeh. Et n'a pas de part. Qui c'est ani? Il est privé d'eux. C'est le ani, c'est celui qui. Il y a une expression qui me vient à l'esprit. Il est en manque de Olam Hazeh. Qu'est-ce qu'il veut dire?
On pense comme ça que dans ce système-là, le pauvre ne peut pas porter de la valeur. Parce qu'il n'a pas d'autre chose. Parce que le pauvre, c'est...
Oui, alors il faut être pauvre de Olam Hazeh. Bon, là, il y a ici un affinement de la notion dans le sens de la vertu. C'est-à-dire de qui on peut dire que c'est une vertu d'être privé d'eux. Celui à qui ça manque. Parce que celui à qui ça manque pas, où est la vertu d'être privé d'eux? Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Hein? Non, alors là, nous avons un niveau dans l'enseignement, faites bien attention. La Torah ne nous demande pas d'être privé du bonheur d'être dans ce monde-ci, non. C'est-à-dire, si on mérite suffisamment, on a les deux. Et ce monde-ci, le monde à venir. Mais ça, c'est très exceptionnel. C'est Zuchut Gadol Meod. Vous voyez ce que je veux dire? La Torah ne nous demande pas de se priver, sauf si c'est nécessaire comme thérapeutique. Okay? Mais, vous comprenez, la sèse thérapeutique. La Torah demande d'être heureux de ce que l'on possède. Eze ou Ashir, Asamear Bechelko. On n'a pas dit qu'il faut qu'il soit pauvre. On a dit que même s'il est riche, il n'est heureux que s'il est satisfait de ce qu'il a. Vous connaissez ces concepts de richesse absolue, richesse relative, pauvreté absolue, pauvreté relative. Okay. Et, mais on n'a pas du tout dit qu'on doit être pauvre. Ce n'est pas ça le problème. Okay. Le problème, c'est d'être heureux de sa part. Mais sa part, ça ne veut pas dire qu'elle doit être petite. Okay. Ça, c'est les problèmes du FSGU. Chaque fois qu'on va lui chercher un budget, il dit FSGU. Rien. Il est très vertueux. Alors, c'est pas.